Une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Étienne Tabag, professeur d'économie à Marseille, et deux fois par mois, je m'attaque franco à des questions économiques qui dérangent. Ici, pas de théorie fumeuse. Avec ma consoeur Laurine Melka, on vous emmène à la rencontre des individus qui font l'économie contemporaine.
Bref, cette émission, c'est comme la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille. C'est audacieux et ça marque les esprits. Bonjour Étienne.
Bonjour Laurine.
Alors en parlant d'audace, je suis sûre que la démission surprise de Nicolas Hulot à la rentrée ne t'aura pas échappé. L'ex-ministre de l'écologie a fustigé, je cite, « la politique des petits pas, notamment en matière d'interdiction de pesticides ou de plans biodiversité ». Depuis, la loi issue des États généraux de l'alimentation a été adoptée, et je ne sais pas toi, mais moi j'ai retenu notamment l'objectif d'ici le 1er janvier 2022 d'avoir 20% de produits bio dans les cantines. Et je me suis posé cette question.
Le passage de l'agriculture au tout bio est-il possible ?
Nous sommes très nombreux à la réclamer. L'agriculture biologique est une alternative à l'agriculture conventionnelle. Ces méthodes, c'est quoi ? Vous le savez, ce sont des méthodes qui refusent l'essentiel des produits chimiques de synthèse ou des OGM qu'utilise l'agriculture intensive depuis le XXe siècle.
C'est vrai que le bio a le vent en poupe en ce moment. Mais est-ce que tu pourrais juste nous faire un rapide rappel des arguments en faveur d'une conversion de l'agriculture conventionnelle en agriculture biologique ?
Alors, il y en a beaucoup. Tout d'abord, cela permettrait de diminuer les coûts de pollution. L'agriculture biologique est moins intensive en énergie. Elle rejette moins de substances polluantes dans l'environnement. Ensuite, il y aurait des arguments de santé publique. En termes nutritionnels, il n'y aurait pas forcément de différence, selon certains rapports. Mais en revanche, la toxicité des pesticides, particulièrement sur les enfants et alors que se multiplient les scandales sanitaires, semble, elle, de plus en plus avérée.
Oui, on peut penser au dernier scandale du chlordécone dans les Antilles françaises, scandale enfin reconnu par les autorités françaises, le chlordécone.
Exactement. Tout est dit rien que dans le nom de ce pesticide ultra toxique. Pour continuer dans les arguments en faveur de la transition au tout bio, on peut rappeler que dans les pays en développement, la promotion d'une agriculture paysanne de type biologique pourrait assurer une sécurité alimentaire, particulièrement en considérant les réalités de terrain, les liens sociaux, et non les seuls intérêts financiers et commerciaux.
Le numéro 1 étant évidemment Monsanto. Bien, à partir du moment où ils ont racheté tous les semenciers du monde, ils ont éradiqué toutes les anciennes variétés qui se reproduisaient conformément au type. Ils les ont remplacées par des hybrides F1, qui génèrent ce qu'on appelle un marché captif, parce que le paysan, le maraîcher et le jardinier sont obligés de racheter des semences tous les ans, vu que par définition, une semence d'hybride F1 est soit stérile, soit dégénérescente.
Ah oui, Monsanto, tout le monde connaît, c'est la grande firme qui a imposé le modèle d'agriculture intensive dans le monde à coup de pesticides et de semences génétiquement modifiées.
Monsanto, dégage du Burkina Faso !
Et cet été, on rappellera qu'après avoir été racheté par le géant pharmaceutique Bayer, le semencier et vendeur de pesticides Monsanto a été condamné par un tribunal de Californie à verser près de 300 millions de dollars de dommages à un jardinier. Alors, Dewayne Johnson, ce jardinier, était atteint d'un cancer après avoir manipulé intensivement leur herbicide Roundup.
Ok, donc tout ça, ça donne quand même plutôt envie de passer au bio le plus vite possible. Mais pour l'instant, on en est où avec le bio ? Ça représente quelle part de l'agriculture actuelle ?
Alors en fait, déjà, parler du bio, c'est super compliqué, à cause de la question des labels. En fait, il y a plutôt des bio.
Des bio, c'est-à-dire ?
Il y a celui qu'on trouve ici, maintenant, partout, même en tête de gondole dans nos supermarchés. C'est le label européen. Il est facile à repérer, avec sa feuille sur fond vert, dessinée avec les étoiles du drapeau de l'Union européenne. Depuis le 1er juillet 2010, cette eurofeuille, comme on l'appelle, s'impose dans tous les pays de l'Union européenne. Mais tu sais quoi ? Ce label est bien moins contraignant que le label AB initial, le tout premier créé en France en 1985. L'Eurolabel autorise par exemple la présence de traces accidentelles d'OGM. Du coup, des labels privés plus exigeants se sont créés, comme le français Biocohérence ou l'allemand Demeter. Mais eux ne veulent surtout pas vendre dans les supermarchés. En fait, ils refusent de coopérer avec la grande distrib.
On plante des choux,
Est-ce que ça dit je fais pas le mou, ce sera les radis. Dans mon hood, on pratique la permaculture. Une tech de ouf, inspirée de la nature.
Mettre au point un label harmonisé était tout de même indispensable pour soutenir la filière. Selon l'Agence Bio, fin 2016, dans l'Union européenne, 300 000 exploitations agricoles étaient ainsi certifiées par l'Eurofeuille, soit 6,2% de la surface agricole utilisée. Alors en France, l'objectif maintenant inscrit dans la loi est de faire passer la part actuelle des surfaces agricoles consacrées au bio de 6,5% à 15% d'ici 2022. En 2018, on aurait déjà eu une année record avec la conversion en bio de 4300 agriculteurs sur l'Hexagone.
Ça reste minoritaire, mais ça va globalement dans le bon sens, c'est ça ?
En effet, car la demande elle aussi ne cesse d'augmenter. En France, selon les derniers chiffres de l'agence bio, les ventes de produits issus de l'agriculture biologique auraient augmenté de 20% en seulement un an.
Et dans le reste du monde, le bio, ça donne quoi ?
Selon différentes sources, grosso modo, seulement 1,5% de la surface agricole mondiale serait bio. Enfin, les chiffres sont un peu à relativiser. De nombreuses surfaces agricoles, plein de petites fermes familiales, sont cultivées sans intrants de synthèse, mais ne font pas l'objet d'une reconnaissance AB.
D'accord, donc le bio, ça progresse. Mais c'est aussi le cas de la population mondiale qui augmente rapidement. Donc la question, ce n'est pas seulement de savoir si le bio peut nourrir tout le monde aujourd'hui, mais est-ce que ça peut nourrir tout le monde dans 50, voire 100 ans ?
Exactement, et la question inquiète les économistes depuis déjà un sacré bout de temps. Savoir s'il est possible de nourrir l'humanité à partir du bio est une question qui a été posée récemment à un économiste, Marc Benoît, par le ministère de l'Agriculture. Alors Marc Benoît est chercheur à l'INRA, et il a passé 2 mois à éplucher les études sur le sujet. Je l'ai contacté sur Skype, il habite Clermont-Ferrand, pour qu'il nous résume l'état des connaissances scientifiques sur le domaine.
À titre personnel, j'étais très intéressé pour traiter de cette question, mais elle est très difficile, on va le voir un petit peu dans la suite. Et donc j'ai quand même travaillé près de 2 mois sur la bibliographie internationale pour construire la réponse. En fait, la question est mal posée, on va peut-être en reparler un petit peu, mais je l'ai très rapidement élargie. Dans la mesure où la vraie question, c'est de savoir est-ce que la bio peut répondre à l'ensemble des enjeux sociétaux d'aujourd'hui, dont celui de l'alimentation.
L'argument essentiel brandi par les détracteurs du bio, ce sont les prévisions démographiques. Il y aurait à la fin du siècle 10 à 11 milliards d'habitants sur la planète, selon l'INED, l'Institut National des Études Démographiques. En s'arrêtant à l'horizon plus proche de 2050, la population mondiale atteindrait 9,5 milliards d'individus. Or, l'agriculture biologique n'arriverait pas à assurer des rendements suffisants pour une telle croissance démographique.
700 millions de Chinois, et moi, avec ma vie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon boîte au foie, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie.
Concernant les écarts de productivité entre agriculture bio et conventionnelle, bon, c'est une question très fréquente. Un chiffre très global, parce que souvent les communicants attendent des chiffres globaux, c'est 20% d'écart à l'échelle de la planète entre le bio et le conventionnel. Donc il y a plusieurs études qui convergent vers ce chiffre-là, sachant que ce 20% ne veut pas dire grand-chose, puisqu'en fait il dépend beaucoup, bien sûr, du type de production, mais également des conditions de l'agriculture dans les pays dont on parle. Par exemple, pays occidentaux, France, en grande culture, c'est 50% de mouvement bio. Par contre, en Afrique, voire en Asie, les systèmes en bio ou en agriculture conventionnelle n'accusent souvent que très peu de retard par rapport au conventionnel, voire ont des productivités supérieures à ce qui se pratique traditionnellement. Donc voilà, 20%, c'est un chiffre très général, puisqu'il faut en avoir en tête.
20%, c'est donc un chiffre très global d'écart de rendement. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de décliner plus finement ce qu'il y a derrière ce terme de bio.
Je sens que tu vas nous parler d'externalité.
Bingo, Étienne. Alors une externalité négative ici, c'est une activité économique qui affecte notre bien-être, mais qui ne s'accompagne d'aucune contrepartie monétaire. Concrètement, les prix de marché n'en tiennent pas compte. Mais l'économiste Marc Benoît, lui, si. Il nous explique que si on réfléchit à l'horizon 2050 en tenant compte des externalités, on va être obligé, je cite, de désintensifier la production.
Ce qu'il veut dire, c'est que le modèle conventionnel de l'agriculture intensive, avec engrais, forte mécanisation, monoculture, etc., c'est difficilement compatible avec la préservation de la planète.
Et à long terme, ça risque de coûter cher à la société.
toutes les prospectives que j'ai pu étudier montrent qu'on a une obligation, dans le cadre de la production agricole, à désintensifier cette production-là, puisqu'on sait que l'intensification a des impacts environnementaux plus qu'ennuyeux, et sachant également que les ressources, comme l'énergie, sont limitées. Donc, dans tous les cas, l'alimentation 2050 de la planète, il faudra désintensifier les systèmes de production. Et dans ce cadre-là, l'agriculture biologique est un cadre tout à fait possible, puisqu'elle a fait ses preuves en termes de compromis entre niveau de productivité et respect de l'environnement, par exemple. Mais bon, ensuite, si on sait qu'il faudra produire un petit peu moins d'hectares, comment répondre à la question de l'alimentation? Et là, il y a quelques très grands enjeux derrière. Vous rappelez d'abord la question des pertes et gaspillages. La FAO a donné le chiffre de 30% de gaspillage à l'échelle de la planète. Donc, c'est bien au-delà de l'écart de productivité entre bio et conventionnel. Donc, on pourrait s'attaquer à cette question-là. Et l'autre très gros enjeu, c'est de modifier nos régimes alimentaires, puisqu'on sait bien que à partir d'un hectare donné, selon que l'on consomme directement les produits végétaux ou qu'on les fait transformer par les animaux, on peut nourrir 2, 5, 10 fois plus de personnes.
Donc, si je résume, le bio, ce serait 20% de rendement en moins grosso modo et 50% en moins sur nos grandes cultures françaises. Mais d'un autre côté, on gaspille 30% de nos ressources alimentaires actuellement.
Tout à fait.
Est-ce que je peux me permettre de dire que tout ça, c'est quand même un peu à cause de tous ces mangeurs de viande?
Je suis d'accord avec Lisa, manger de la viande, c'est mal.
On mange des vaches qu'on nourrit avec des végétaux dans un processus industriel très polluant, alors qu'on pourrait directement manger des végétaux et éviter tous ces gaspillages.
Alors je sais, Étienne, que tu es végétarien, mais pour inverser la tendance, l'humanité n'est pas obligée d'arrêter complètement la viande. Bon, on va devoir à coup sûr la limiter. Mais on peut aussi réfléchir à appliquer les principes de l'agroécologie à l'élevage. C'est justement ce que fait Marc Benoît et l'INRA, au cœur de l'Auvergne, dans une ferme un petit peu particulière.
J'avais un marteau, je cognerai le jour, je cognerai la nuit, j'y mettrai tout mon cœur, je bâtirai une ferme, une grange et une barrière. Et j'y mettrai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh oh, ce serait le bonheur.
Donc on a une ferme expérimentale dans les montagnes d'Auvergne, dans le massif du Sancy et du côté de Clermont. Donc très grosse ferme, 1500 hectares. 130 hectares ont été convertis en bio, ce qui est quand même un investissement de l'INRA important. Et en fait, notre hypothèse de travail sur ces 130 hectares par rapport à des systèmes performants en bio, c'est de dire la bio, c'est beaucoup les principes de l'agroécologie. Et dans les principes de l'agroécologie, on sait que la complexification et la diversification des systèmes de production, c'est-à-dire au sein d'une ferme par exemple, permet d'améliorer les performances. C'est-à-dire qu'on va avoir des interactions favorables entre certaines composantes du système. Nous, comment on a décliné ça, puisque c'est un peu théorique ce que je dis là, c'est de dire on va en élevage, puisque sur ces territoires-là, on n'a que de l'herbe, donc on ne peut faire que de l'élevage. Plutôt que d'élever les moutons d'un côté et d'élever les vaches de l'autre, on va les mettre ensemble et essayer de voir, dans la mesure où on va mixer les troupeaux, est-ce que les performances globales vont s'améliorer en termes de meilleur état sanitaire des troupeaux, c'est-à-dire moins de maladies, etc. Meilleure productivité en viande, meilleur impact environnemental, etc. Donc on a trois petites fermes, en fait, qu'on gère en parallèle. Donc chaque ferme fait 40 hectares. L'une, on n'a que des moutons. À l'opposé, on n'a que des bovins. Et celle du milieu, donc on associe les deux et on compare sur 5 ans. Est-ce que les performances sont meilleures dans le système mixte? Et si ces performances sont meilleures, qu'est-ce qui fait qu'elles sont meilleures?
Et donc, le bilan de cette expérimentation de la mixité des élevages, il s'avère positif.
Apparemment, à la fois en termes de productivité et en termes environnementaux.
Marguerite. Oui, 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 tu es une brave bête, oui. Et on va reprendre la vie commune. Ah. Allez, viens.
Ouais, moi j'aurais dit que ça aurait été quand même plus simple qu'on devienne tous végétariens, mais admettons. En tout cas, passer au tout bio, si je te suis, c'est pas juste une histoire de substitution de produits alimentaires, mais ça oblige à revoir complètement le système de production.
Oui, et c'est ce que font aujourd'hui à la fois les tenants de la permaculture, de l'aquaponie ou de l'agroécologie. Comment changer le système de production? C'est ce que m'a expliqué une agricultrice que j'ai rencontrée dans ma région des Hauts-de-France, Agnès Kind.
Ce qui différencie de l'agriculture intensive, c'est surtout qu'on travaille beaucoup en préventif, en fait. Donc, par exemple, contre les insectes qui pourraient attaquer certaines cultures, on utilise des filets. Donc, c'est une barrière physique, c'est tout simple. Il faut le mettre en place sur des petites surfaces comme les miennes, c'est tout à fait possible. Après, j'imagine que quand on est sur 10 hectares, c'est un peu plus compliqué. Après, on a aussi d'autres techniques comme, un peu, par exemple, décaler les dates de semis. Je pense, par exemple, une culture comme la mâche. La mâche peut avoir une maladie qui s'appelle l'oïdium, donc c'est un champignon. Mais ce champignon, il n'intervient pas si on est sur des températures froides. Donc du coup, si on décale un petit peu la période de semis, on va être dans des températures froides et elle sera pas malade. Donc, c'est tout des techniques comme ça, un petit peu. Après, moi, je me base aussi beaucoup sur la biodiversité. Donc j'essaye d'avoir un environnement assez vivant qui peut ne pas paraître très propre parce que y a des herbes folles et c'est un peu sauvage, mais en fait c'est une réserve d'auxiliaires qui font qu'on va avoir un équilibre de ravageurs et d'auxiliaires sur le terrain. Du coup, personne va prendre le dessus sur l'autre et ça va. Bon, les cultures vont pas être décimées en fait. Il y aura quelques petites attaques par-ci par-là, mais ce sera pas la catastrophe, quoi.
Alors Agnès Kint, c'est une jeune femme passionnée de 31 ans qui a commencé par vouloir faire de la recherche en agronomie. Mais il y a 6 ans, elle a décidé de s'installer en maraîchage bio à Houplines, au nord-ouest de la métropole lilloise, à 2 pas de la frontière belge.
Houplines, c'est génial comme nom. Ah, j'adore.
Donc pourquoi le bio ? Enfin, moi, c'est... la question ne s'est pas vraiment posée. Par mes études, en fait, j'avais acquis des convictions par rapport à ça. Et j'ai pas eu le problème de changer de méthode, puisque j'ai démarré tout de suite comme ça. Donc je me suis tout de suite intéressée aux techniques qui permettent de pas utiliser de désherbants, de pas utiliser de produits phytosanitaires. Donc la question elle s'est pas vraiment posée en fait. C'était vraiment naturel de fonctionner comme ça. Et après il y a eu aussi, c'était une évidence par rapport à donc la MAP. Où à la fois dans la charte des AMAP, c'est bien écrit sans intrants, sans produits chimiques, et aussi dans, je ne vais pas dire l'idéologie, mais dans la philosophie du système, c'est logique, quoi. C'est le respect de la terre, le respect des hommes et de la nature, donc forcément pas de produits chimiques. Voilà.
Après avoir vu Agnès, j'ai repensé au fait que les puristes, ils ne disent pas le bio, mais la bio. L'agronome et ethnologue Jacques Capla, dans L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité, écrit que la nuance n'est pas anodine. Parler du bio au masculin, ça revient à parler essentiellement du produit bio, c'est-à-dire de l'aliment final. Mais parler de la bio au féminin, ça revient à parler de l'approche globale de l'agriculture biologique. En prenant en compte les externalités cette fois positives, comme la préservation de la planète ou du lien social.
Juste pour rappel, AMAP, ça veut dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. C'est un partenariat de proximité entre un ensemble de consommateurs et une exploitation locale.
Exactement. C'est une association de consommateurs. Donc, chaque client, entre guillemets, est adhérent à l'association. Et le producteur a un contrat à l'année avec chacun d'entre eux. Ensemble, les adhérents achètent la totalité des légumes du producteur pour toute l'année. C'est une sorte d'abonnement qui permet à l'agriculteur de ne pas avoir de pertes et de connaître ses revenus à l'avance. Agnès m'a confié arriver à s'assurer ainsi 1 200 € de revenus par mois, ce qui reste faible, mais correspond au revenu moyen des agriculteurs en France. Enfin, en plus du soutien financier, il arrive même que les adhérents de l'AMAP lui filent un coup de main sur la base du volontariat en cas de besoin sur l'exploitation. Et côté producteur, là aussi, tout un réseau d'entraide et de coopération se crée.
Là, c'est carrément le système de distribution et de consommation qui change. Mais les AMAP, ce sont souvent des petits producteurs. Et les gros producteurs, eux, est-ce qu'ils sont prêts à changer ?
Changement !
Pour le savoir, je suis allée cette fois à la rencontre de Bio en Hauts-de-France, l'organisation régionale qui accompagne près de chez moi les agriculteurs dans la conversion au bio. L'un de ses dirigeants, Simon Allais, nous détaille les principaux freins à la transition. Et tu vas voir, ils ne sont pas qu'économiques.
Si on essaie de comprendre les freins à la conversion vers l'agriculture biologique, en prenant par exemple l'exemple des systèmes grandes cultures, il y a 3-4 grandes catégories de freins qu'on peut relever. Le premier est le frein historique, j'ai envie de dire, c'est le frein psychosociologique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans un territoire, un agriculteur qui va se lancer dans une conversion bio, ça pose la question du regard des gens, le regard du voisinage agricole, non agricole, le regard de la famille, celui des conseillers également. Et du coup, c'est compliqué pour l'agriculteur d'oser se lancer, d'innover dans certaines techniques, voire d'aller vers la bio, quand il est tout seul dans un territoire à se poser ces questions, quoi. Ce frein-là, la bio se développant, est de moins en moins vrai, c'est-à-dire que plus à l'échelle du territoire on a des agriculteurs qui se lancent, plus moins on se sent seul, quoi.
Ce que nous dit Simon Allais, c'est qu'il y a principalement quatre freins à la conversion des agriculteurs de grandes cultures au tout bio. Premier frein, le frein sociologique, le fameux contrôle social des pairs. Traduction, pas évident de ne pas suivre la norme, de dévier des techniques de l'industrie productiviste si on est tout seul à le faire. Deuxième frein, alors c'est plus technique, c'est celui de l'enherbement.
Pardon, l'emmerdement ?
Mais non, pas l'emmerdement, l'enherbement. C'est la question du développement des mauvaises herbes. Selon le responsable de bio en Hauts-de-France, Simon Allais, le passage d'une agriculture conventionnelle à la bio oblige à deux solutions. Soit on anticipe en amont en diversifiant les cultures, en rallongeant les rotations, soit on investit dans du matériel mécanique spécifique, ce qui est très coûteux. Sauf si cet investissement se fait à plusieurs, à travers des coopératives d'utilisation de matériel agricole appelées des CUMA.
La coopération permettrait de mutualiser la prise de risque.
Exactement. Autre frein et pas des moindres, le manque de soutien des pouvoirs publics. Parce que la transition d'un système à un autre peut coûter cher pour un agriculteur. Il faut acheter du nouveau matériel, on l'a dit, mais la certification peut aussi prendre plusieurs années, le temps que la terre soit définitivement débarrassée de tout produit chimique. Et pendant ce temps-là, on est obligé de vendre ses biens agricoles dans le circuit conventionnel à un prix plus faible. Ce qui montre la nécessité des aides publiques à apporter à ces agriculteurs qui franchissent le pas. On parle d'aide à la conversion.
Mais il y a aussi des aides au maintien, c'est ça ?
Oui, et celles-ci ont été supprimées. Pour la FNSEA, syndicat agricole majoritaire, il faut après conversion laisser faire le marché. Autrement dit, si l'offre augmente et qu'il y a de la demande, les prix vont s'ajuster et l'État n'a plus à intervenir. Mais pour la FNAB, qui défend l'agriculture biologique, les pouvoirs publics doivent continuer à soutenir la filière bio en prenant en compte tous les services environnementaux rendus à la collectivité. Comme par exemple éviter la destruction de milliards d'abeilles et de pollinisateurs, maillon essentiel de la biodiversité.
Toutes ces aides publiques qui sont donc utiles à l'environnement. Et en termes d'emploi, la bio, ça donne quoi ?
Eh bien là aussi, justement, la bio, ça en crée. Mais figure-toi que ce n'est pas que positif. C'est même le dernier frein de la conversion au tout bio, comme l'explique Simon Allais de Bio en Hauts-de-France.
Un autre frein un peu plus récent, enfin en tout cas qui est de plus en plus prégnant, c'est celui de l'emploi. Donc l'agriculture biologique crée plus d'emplois, ça c'est une bonne nouvelle. Si on prend les statistiques nationales, on a 1,6 fois plus d'emplois sur les fermes bio que sur les fermes conventionnelles. Au niveau national, 6% des fermes sont en bio et pourtant on a bien 12% de l'emploi agricole qui travaille dans des fermes bio. Donc ça crée de l'emploi, c'est une chose. Mais si on se met dans la peau de l'agriculteur, ça peut être un réel frein, notamment parce que depuis les années 50, on a libéré la main-d'œuvre, c'est-à-dire que les agriculteurs sont sur des systèmes qui sont de moins en moins gourmands en emploi. Et donc, ça peut être un réel frein aujourd'hui parce que ça pose la question de la capacité financière à dégager un salaire. Ça pose la question du risque. Et donc là, on retourne aussi sur le risque psychologique de l'emploi. Ça pose aussi les questions de la compétence, en termes de management, etc. Et ça, c'est un frein qu'il va falloir lever, qui est de plus en plus fort sur ce type de système.
Bon, c'est très bien tout ça, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Il suffit juste de se retrousser les manches, car si je comprends bien, ça bouleverserait beaucoup de choses.
Et même certains grands principes sur lesquels repose notre système économique. J'ai rappelé Simon Allais, qui accompagne les agriculteurs du Nord dans la transition vers la bio. Et il insiste sur l'importance de la diversification des systèmes agricoles, mais pose aussi la question de la compatibilité avec le sacro-saint principe de la spécialisation.
Les régions se sont spécialisées en sciences et théorie des avantages comparatifs liés soit à des aspects logistiques territoriaux ou des aspects de contexte pédoclimatique. Si on se place dans une perspective de changement d'échelle de la bio à grande échelle et qu'on continue sur ce principe en disant on va plutôt spécialiser là où on est bon, les territoires, la bio ne pourra pas se généraliser puisque le principe de l'agriculture biologique c'est la diversité, c'est-à-dire que c'est la diversité des systèmes de production qui permettent d'avoir une cohérence agronomique et d'avoir des rendements performants. Je prends les exemples, en grande culture notamment, par exemple, en région de France, en agriculture conventionnelle, on l'a plutôt spécialisée. Donc à l'échelle d'une ferme, on est sur des rotations assez courtes, c'est-à-dire on va cultiver du blé, de la betterave sucrière, du colza par exemple, et puis on s'arrêtera là. Ça, agronomiquement, c'est pas possible dans les cultures biologiques, puisque ça va poser des problèmes agronomiques, c'est-à-dire on va avoir des mauvaises herbes qui vont se développer, qu'on ne saura plus gérer, on aura des maladies, des ravageurs, puisque plus on est sur des cultures identiques, plus on a ces problématiques maladies, ravageurs, enherbement et problèmes de fertilisation qui arrivent. Et donc l'agriculteur bio, pour éviter ça, puisqu'il n'y a pas de béquilles chimiques, il a construit un système non pas basé sur 3 cultures, mais sur 6, 7, 8 cultures différentes, avec l'introduction de légumineuses. Donc ça pose la question de comment valoriser les légumineuses, soit vis-à-vis de l'alimentation humaine, soit animale. Donc ça pose la question de les coopérations entre grandes cultures et élevage. Bref, du coup, pour dire qu'une rotation d'un agriculteur, il y a beaucoup plus de cultures. Et ça va à rebours avec les filières agricoles telles qu'elles se sont construites, plutôt sur des modèles assez spécialisés, concentrés.
En conclusion, passer au tout bio, c'est vraiment pas gagné. Il faudrait investir beaucoup d'argent dans la recherche agronomique, changer nos habitudes de production comme de consommation, et repenser la spécialisation de nos filières agroalimentaires. Bref, c'est pas encore pour demain. Sans oublier que ça demanderait aussi une volonté sans faille des pouvoirs publics à l'heure où certaines aides à la conversion promises aux agriculteurs n'ont toujours pas été versées.
Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire.
Rendez-vous au prochain épisode de Splash pour jeter un pavé dans la mare, rien de mieux pour se muscler les idées. Splash est une émission d'Étienne Tabaille, co-animée avec Laurine Melka, produite par Nouvelles Écoutes. Réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, montée et coordonnée par Marine Rowe, mixée par Laurie Galligani. Pour vous pencher sur les études, les chiffres et références entendues dans l'épisode, ils sont à retrouver dans la description de l'émission et sur le site de Nouvelles Écoutes en vous rendant sur la page de Splash. Vous pouvez retrouver Splash sur Twitter, Splash Podcast tout attaché, et sur Instagram sous le même nom, Splash Podcast sans espace. Chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas vous aussi à nous poser des questions économiques dans les commentaires de l'émission sur Apple Podcast, et je prends toutes vos bonnes idées contre 5 étoiles. À très vite.